Radio Capi. Oh, Capi. Les journaux, Gisèle Cage.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Capi. Merci de votre fidélité à l'écoute de notre antenne pour suivre l'essentiel de l'actualité. Voici les principaux faits marquants de ce jour. Joseph Kabila condamné à mort, un verdict historique, crime de guerre, trahison, insurrection. La haute cour militaire de Kinshasa frappe fort contre l'ancien président absent au procès. RDC, la paix reste une promesse. Devant l'ONU, Bintou Keïta alerte sur l'écart entre les engagements politiques et la réalité violente du terrain. L'OMAMI, agir contre les violences sexuelles. Prosper Moukeni, coordonnateur du Centre d'études sur la famille, est l'invité de la rédaction pour parler des actions menées dans les écoles et auprès des forces de l'ordre. Coup de tonnerre judiciaire à Kinshasa, l'ancien président Joseph Kabila condamné à la peine capitale. C'est le verdict sans appel rendu hier par la haute cour militaire en l'absence de l'ex-chef de l'État. Après 18 ans à la tête du pays, Kabila est reconnu coupable des crimes de guerre, viol, trahison et d'avoir fomenté un mouvement insurrectionnel. La sentence est lourde, peine des morts, arrestation immédiate et 33 milliards de dollars de dommages et intérêts. Toutefois, ces biens ne seront pas saisis, contrairement à ce qu'exigeait le ministère public. Jeff Ngoy était dans la salle d'audience au moment du verdict. Écoutons son récit.
Plusieurs heures pour exposer les motifs de cette condamnation du point de vue du droit et des faits. Selon les juges, Joseph Kabila est le chef de la coalition AFC M23. Bien qu'étant président de la République, il a toujours été le chef incontesté de tous les mouvements rebelles du pays, depuis la rébellion de Moutébouci. Il effectue des inspections dans les centres d'instruction de l'AFC M23, supervise des réunions d'état-major de la rébellion et dirige les hostilités contre la RDC. Concernant sa nationalité supposée rwandaise, d'après les parties civiles, la Cour s'en déclare incompétente. L'arrêt de la Cour statue que celle-ci juge plutôt un Congolais qui a été président de la République. Elle n'autorise pas non plus la mise sous séquestre de ses biens. Elle établit en droit et dans les faits plusieurs infractions contre le condamné, dont la participation à l'insurrection en entente avec Corneille Nangaa et le Rwanda pour renverser les institutions de la République par l'élimination physique de son président. Pour la Cour, les faits sont d'une extrême gravité et scandalisent des milliers de Congolais dont Kabila a été président pendant 18 ans, violant ainsi le devoir de réserve, de dignité et de loyauté envers l'État.
Nous restons sur cette affaire, le procès de Joseph Kabila condamné à la peine de mort. Maître Richard Bondo, avocat principal des parties civiles, salue ce verdict. Selon lui, la haute cour militaire a dit le droit. Il s'est confié à Jeff Ngoy. Voici ses propos.
Nous devons nous incliner. Ce qui voudrait dire que nous sommes satisfaits parce que le droit a été dit. Donc la justice rendu au nom du peuple congolais, donne satisfaction à ce peuple, étant donné que le prévenu Kabila, cerveau moteur de tous les mouvements rebelles, tous les insurgés et toute l'agression rwandaise, lui comme cerveau moteur, vient d'être condamné à la peine capitale par la haute cour militaire. Donc nous devons être satisfaits. Et surtout que pour la réparation, ça avoisine 34 milliards de dollars.
Pour clore ce chapitre judiciaire, la riposte des proches de Joseph Kabila ne s'est pas fait attendre. Le verdict de la haute cour militaire est vivement contesté par le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, qui parle d'une trahison à la démocratie. Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du PPRD et figure du Front commun pour le Congo, FCC, dénonce un procès de la honte. Pour lui, cette condamnation à mort de l'ancien président ouvre la voie à un nouveau procès, celui des dirigeants actuels qui l'accusent de bafouer les lois de la République. Il s'exprime au micro de grâce. Hamzati, écoutons-le.
L'objectif, en réalité, de poursuivre l'ancien président de la République, c'était simplement de faire taire un homme qui a encore une opinion, un homme qui a travaillé pour la réunification de ce pays, pour la pacification de ce pays, pour la démocratisation de ce pays. Au moins pour la première fois depuis 60, nous avons connu avec le roi Joseph Kabila Kabange la première alternance pacifique au pouvoir. Un opposant est venu. Mais regarde quelle trahison avec ce procès. Parce qu'il ne réfléchit pas comme vous. Il a une autre opinion par rapport à ce qu'il dirige. À travers un procès non équitable, un procès instrumentalisé. Vous voyez bien que c'est la guerre qu'ils connaissent bien parce que c'est eux qui ont appelé les M23 14 mois ici. C'est eux qui sont dans des accords obscurs avec le Rwanda et l'Ouganda qui soutiennent les M23. L'est du pays est occupé aujourd'hui. Aucune ville n'est conquise en réalité, mais on veut cacher ça par une condamnation d'un innocent. Celui qui ne fait qu'appeler à la paix, au retour sous la table pour que les Congolais se parlent.
Crise sécuritaire en RDC. Devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, réuni ce mardi à New York, la représentante spéciale du secrétaire général en RDC, chef de la MONUSCO, Madame Bintou Keïta, a lancé un appel solennel. Elle exhorte toutes les parties présentes à respecter leurs engagements pour instaurer une paix durable. Mais son constat est sans détour en RDC. La paix reste une promesse, affirmait-elle. Selon Bintou Keïta, les avancées diplomatiques et politiques ne se traduisent pas encore sur le terrain, toujours marqué par la violence et l'instabilité. Écoutons un extrait de son intervention proposée par Grace Hamzati.
La paix tarde à se concrétiser sur le terrain. Depuis juin, la MONUSCO a comptabilisé 1087 civils tués lors d'actes de violence en Ituri et au Nord Kivu. Et ce bilan s'alourdit de jour en jour. Monsieur le Président, au sein du pays, une initiative de dialogue interne a vu le jour. Elle est portée par les principales confessions religieuses et soutenue par le président Félix Tshisekedi. Elle a déjà produit des résultats. Une feuille de route publiée en août marque une étape décisive. Ouvrir l'espace civique et renforcer la cohésion sociale sont essentiels. Sans cela, les élections générales de 2028 ne pourront bénéficier d'un climat de sécurité et de confiance. J'appelle tous les responsables politiques à être inclusifs, à condamner les discours de haine d'où qu'ils proviennent, à choisir le dialogue. En même temps, j'exhorte la population à s'abstenir de tels discours, à ne pas propager la désinformation et la mésinformation.
Pendant ces temps, la République démocratique du Congo maintient la pression diplomatique devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Réuni ce mardi à New York, son représentant permanent Zénon Moukongo a réitéré l'appel de Kinshasa à faire appliquer la résolution 2773 qui exige notamment le retrait de l'armée rwandaise du territoire congolais. Pour lui, cette mise en œuvre est la clé d'une paix véritable dans la région. Il plaide également pour renforcer de la MONUSCO sur le plan diplomatique, militaire et financier afin qu'elle puisse pleinement remplir son mandat bientôt renouvelé. Voici un extrait de son intervention sélectionnée par Grace Hamzati.
L'accord de Washington et la déclaration de principe de Doha abondent dans le même sens car le retrait des troupes rwandaises, la fin de leur appui au M23 et le retour de l'autorité de l'État congolais sur toutes les zones occupées constituent des conditions non négociables pour une paix véritable. Le Conseil de sécurité, garant du maintien de la paix et de la sécurité internationale, doit veiller à la stricte application de cet accord, désormais indissociable de la mise en œuvre de sa résolution 2773. Tant que ces décisions ne seront pas exécutées, le sang des innocents continuera de couler. L'objectif pour la République démocratique du Congo demeure inchangé. Obtenir une paix juste, durable et véritable, non une accalmie factice et éphémère qui, depuis près de 30 ans, a trop souvent déçu l'espérance de notre peuple. Nous attendons de la communauté internationale et de ce Conseil de sécurité qu'ils se tiennent avec constance et courage du côté du droit. C'est à ce prix que la vérité l'emportera sur l'impunité et que la paix redeviendra possible.
En réponse à l'intervention de la RDC, le représentant du Rwanda a réaffirmé l'attachement de son pays à l'accord de paix de Washington qu'il assure respecter scrupuleusement. Cependant, Kigali dénonce la présence jugée dangereuse et persistante des forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR qui l'accuse d'être soutenu par Kinshasa. Le Rwanda exprime également ses inquiétudes quant au rôle futur de la MONUSCO tel que prévu dans l'accord et insiste pour que la mission onusienne soit pleinement préparée sur le plan logistique, diplomatique et militaire afin d'assumer ce rôle de manière constructive. Autre fait marquant de l'actualité, le développement des infrastructures au Congo central. Au deuxième jour de sa tournée dans cette province, la Premier ministre Judith Suminwa a inspecté l'état d'avancement des travaux sur la route nationale numéro 12 reliant Materne à Singini en passant par la cité de Tchela sur le 113 km que compte cet axe stratégique. 40 km sont déjà asphaltés dans le cadre du projet sino-congolais. La chef du gouvernement était accompagnée d'une délégation de haut niveau, comprenant notamment le ministre des Infrastructures et Travaux Publics ainsi que les directeurs généraux de l'Agence congolaise de grands travaux, Blaise Dongala Mayanda, nous en dit davantage.
En ce début du mois d'octobre, le projet de modernisation de la route nationale numéro 12 a déjà atteint plus de 30% des réalisations. Peu à peu, l'ancienne piste boueuse en saison des pluies et poussiéreuse en saison sèche laisse la place à une route asphaltée avec marquage au sol et bornes kilométriques à chaque kilomètre. Dans la cité de Lukala, où s'effectuent actuellement ces travaux, le directeur général de la CGT, ingénieur Nico Nzaounzaou, a rassuré la première ministre et toute la délégation de l'avancement actuel de ces travaux. Outre l'asphaltage, certaines zones sont en cours de stabilisation au ciment dosé à 5%, d'autres encore attendent la venue de la motocouche. Le directeur général de l'entreprise chinoise Siske SA a précisé que ce chantier ne s'arrêtera pas avant d'atteindre Singini, où se repose pour l'éternité le tout premier président de la RDC, Joseph Kasavubu. La première ministre a honoré sa mémoire en s'inclinant et en déposant une gerbe de fleurs devant son mausolée. Le passage de Judith Suminwa sur la route nationale numéro 12 aura été un moment de communion avec les ouvriers congolais de l'entreprise Craig Seto.
Parlons à présent de la circulation dans la capitale. Ce mardi marque le deuxième jour du déploiement de la police militaire sur les principales artères de Kinshasa. Objectif, prêter main forte aux agents de la circulation pour tenter de désengorger les routes. Et les effets se font déjà sentir, même si les avis des usagers divergent. Certains conducteurs saluent la présence de la police militaire qu'ils jugent dissuasive et efficace. D'autres estiment que la fluidité observée est plutôt due à la baisse du nombre de véhicules, conséquence directe de la ruée vers le centre de délivrance des permis de conduire. Lucky Nzaou et Abraham Kibuka ont sillonné les grands axes ce mardi du boulevard du 30 juin aux avenues Mondimba, Libération de la Science et Kasavubu pour faire le point suivant leur reportage.
Les routes de Kinshasa que nous avons fréquentées affichent deux visages. Certaines sont dégagées, mais dans certains coins, nous avons constaté la congestion des véhicules malgré la présence des militaires. Nous ne perdons plus beaucoup de temps dans les embouteillages, a fait savoir Eli Muzinga, conducteur d'une Toyota IST.
Il y a eu un changement depuis que le PM sont venus nous aider. Comme ça, c'est bien. Comme ça, on peut aller plus loin. Ça prend pas beaucoup de minutes. S'il y a l'embouteillage, ça va pas traîner. Quelques minutes, là, c'est dégagé et puis je commence à rouler.
Patrick Nfosso, conducteur également, fait quant à lui appel au bon sens des conducteurs pour éviter les embouteillages.
Tout conducteur doit respecter le code de la route, vu que nous manquons des routes dans notre pays. Si nous sommes disciplinés, nous éviterons certains embouteillages. Les agents de l'ordre ne restent pas là toute la journée.
Ces PM sont munis pour la plupart d'un bâton caoutchouc. Ils dispersent des stationnements anarchiques. Si les conducteurs sont favorables à leur présence sur les artères, beaucoup souhaitent que cette présence perdure.
Actualité internationale.
Blaise Lasme et Nestor Daï, membres du Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire, PPACI, fondé par l'ex-président Laurent Gbagbo, ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt le 30 septembre à Abidjan. Ils sont poursuivis pour atteinte à la sûreté de l'État, appel à l'insurrection, trouble à l'ordre public et non-respect d'une décision du Conseil constitutionnel. Leur inculpation fait suite à une vidéo tournée lors d'une réunion à Yopougon où Nestor Daï, chargé de la mobilisation du parti, s'exprimait. Leur avocat, maître Roselyne Serikpa, affirme qu'il s'agissait d'une activité militante sans intention insurrectionnelle et que les accusations découlent de leur opposition à un quatrième mandat du président sortant Alassane Ouattara. Le gouvernement rappelle que les décisions du Conseil constitutionnel, notamment le rejet des candidatures de Gbagbo et d'autres leaders pour la présidentielle du 25 octobre, sont définitives et leur contestation constitue une infraction.
L'invité.
Dans la province de la Lomami, le centre d'études sur la famille, la population et la santé de la reproduction intensifie son combat contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre. Après avoir mené des séances de sensibilisation auprès des agents de la police, l'organisation prévoit désormais d'étendre ses actions aux établissements scolaires des Kabinda. Pour en parler, Prosper Moukeni, coordonnateur national de cette structure et l'invité de la rédaction, il répond aux questions de Esther Ndalafina.
Bonjour, monsieur Moukeni Kabemba. Votre organisation s'est adressée aux agents de la police lors de la parade tenue la semaine dernière. Comment expliquez-vous votre présence à cette parade?
En fait, le lundi que nous avions été sur terrain, nous nous sommes rendus à la police nationale congolaise lors de la parade, comme nous étions déjà entretenus avec le général de la police qui, à son tour, nous avait octroyé l'opportunité de pouvoir partager avec les policiers lorsqu'ils sont à la parade. Nous avons partagé avec la police sur nos missions phares, d'autant plus que nous en avons 5, parmi lesquelles nous avons la prévention des violences basées sur le genre, la réponse aux survivantes des violences basées sur le genre suivant l'approche centrée sur les victimes. Nous travaillons sur la collecte des données, travaillons sur la santé sexuelle et reproductive et enfin nous travaillons sur les autres interventions. Si nous sommes arrivés vers la police, c'est pas à l'occasion de rien, c'est parce que nous touchons à un niveau avec la police dans ses attributions et dans les buts que nous poursuivons, nous, comme centre d'études. Nous travaillons sur la prévention. Non seulement la prévention aussi, nous prenons en charge. En fait, si nous sommes descendus sur le terrain, c'est pour demander à la police, où qu'elle soit, tout policier qui va se saisir d'un cas de violence, qu'il nous fasse part de sorte que nous puissions raisonner, rêver comment prendre en charge la victime à tous les niveaux, la prise en charge médicale, psychologique, juridique, à tous les niveaux nous sommes prêts pour pouvoir accompagner la victime et raisonner ensemble comment maîtriser les bourreaux. Voilà, non seulement ça, et aussi nous avons partagé avec la police sur la santé sexuelle, comment espacer la naissance, comment prévenir certaines grossesses indésirables. Voilà en quelque sorte notre mission pour laquelle nous avions été attendus à la police.
Quel est l'objectif poursuivi en menant cette activité?
Notre objectif majeur est celui de réduire sensiblement les taux de violence basés sur le genre observés à travers la République démocratique du Congo. C'est ainsi que nous sommes en train de mener les activités suivant ces approches, comme je venais tantôt de le dire.
Y a-t-il d'autres cibles que votre organisation a prévues?
Nous sommes en train de rêver pour passer à toutes les écoles d'ici la semaine prochaine. Nous allons rencontrer quelques écoles qui sont déjà ciblées par nous, de telle enseigne que nous puissions nous entretenir avec ces dernières, parce que nous réalisons que les élèves filles sont si souvent victimes de violences basées sur le genre. On descend sur le terrain, on explique ce que c'est la violence. Ce que les gens comprennent, des fois, à certains niveaux, que les violences ne sont seulement que lorsqu'on touche une fille, non. Même du point de vue psychologique, on peut aussi violer une fille. Dès qu'elle se plaint, en tout cas, nous sommes prêts pour agir, l'accompagner à tous les niveaux.
D'où proviennent les moyens pour la prise en charge médicale, psychologique et juridique des victimes de VBG?
C'est une bonne question. Avec notre club des entrepreneurs, nous travaillons sur l'agriculture et sur l'élevage. Nous avons d'ailleurs mis en place un projet d'élevage des poules pondeuses en ville de Cabinda. Dans les clubs des entrepreneurs, nous avons nos projets à nous. Et nous avons toute une cellule de la réinsertion sociale.
Parmi les auteurs des VBG, il y a aussi des civils. Que faites-vous par rapport à cette catégorie de personnes qui sont souvent amenées à la police en cas de violence sexuelle ou basée sur le genre?
Nous sommes là comme humanitaires, nous accompagnons la victime. Nous voyons l'acte consommé sur elle, nous l'appuyons. Si le bourreau n'est pas maîtrisé, nous allons lutter avec toutes les mesures possibles de la filature, de telle enseigne que le bourreau soit appréhendé. Nous avons notre clinique juridique, nous avons les avocates et les avocats. Ils sont bien outillés, bien formés pour accompagner les victimes en justice.
Monsieur Mukeni Kabemba, merci beaucoup.
Voilà, merci.
Prosper Mukeni, coordonnateur national du Centre d'études sur la famille, la population et la santé de la reproduction, s'est exprimé sur les actions menées à Cabinda contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre. Il répondait aux questions d'Esther Ndalafina. Merci d'avoir suivi ce tour d'horizon de l'actualité. Ce journal vous a été présenté par Gisèle Cage, mise en onde Alain Goy, coordination éditoriale Richard Junior Kamou, coordination générale Pouli Mousalia. Retrouvez cette édition en podcast sur www.radiocapi.net. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition.